Matthieu au chapitre 18. Il y a juste une image qui s'affiche. Je n'aurai pas plus de PowerPoint ce matin parce qu'il n'y a pas de difficulté théologique. C'est surtout très pratico-pratique. Dans cette thématique que nous avons abordée ensemble, pour ceux qui nous rejoignent, si vous êtes intéressés, les messages sont en ligne, bien sûr. Il restaure mon âme. Nous avons vu que par la grâce de Dieu, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons été amenés à traverser, ce que nous avons subi les uns et les autres, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan ecclésial, ça peut être dans l'enfance, on peut dans cette vie avoir tellement de blessures différentes. Mais il est une réalité, un thème biblique fondamental, c'est que le Seigneur, lui, Dieu, dans sa grâce, veut nous accorder à tous et à toutes, et c'est une nécessité absolue, une restauration totale et définitive. Nous avons considéré au fur et à mesure des dimanches que le seul qui nous restaure, c'est Dieu, et Dieu seulement, c'est Dieu lui-même, et notamment sa parole et son esprit. Et puis on a vu aussi que si Dieu est le Dieu de restauration, on a bien compris au fur et à mesure des dimanches que rien ne se fera jamais sans nous ou contre notre gré, contre notre volonté. Le Seigneur est clair dans sa parole, il nous présente de véritables chemins de restauration, mais il en présente aussi des faux, qui sont en réalité des chemins dans lesquels notre âme va s'engouffrer naturellement. Une voie de compromis, une voie de vengeance, une voie d'enfermement comme Élie, une voie d'abandon comme Asaph, une voie d'apitoiement comme Jérémie. Et notre âme naturellement va s'engouffrer toute seule. Il faut pouvoir, on l'a vu dans chaque message, comment ces grands hommes de Dieu ont mis un stop aux pensées de leur âme qui étaient en train de les emmener dans le mur et qu'ils sont venus ou qu'ils sont revenus au Dieu, au berger qui seul était capable de les restaurer. Ce sont des sentiers de justice dans lesquels nous sommes, spirituellement parlant, convenablement positionnés pour permettre à Dieu de nous donner la restauration qu'il veut et entrer dans l'avenir qu'il a prévu pour nous. Et ce matin, je veux simplement commencer à aborder quelques messages avec vous pour les quelques dimanches qui viennent sur la thématique, cette grande thématique, on va le voir, c'est interdépendant, de la repentance et du pardon. Du pardon et de la repentance. Il n'y a pas de restauration totale sans repentance. Et il ne peut pas y avoir de restauration totale, pleinement efficace, s'il n'y a pas de pardon. Pardon et restauration sont comme deux rails indissociables l'un de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire au sujet du pardon. On trouve dans la parole de Dieu beaucoup de textes qui nous parlent du pardon et qui le présentent comme un impératif. Il existe de merveilleux exemples de restauration, de pardon. Peut-être on aura occasion à un moment de parler de la retrouvaille de Joseph avec ses frères. C'est un merveilleux exemple de restauration par le pardon. Et il y aurait différents textes pour démontrer la nécessité et les bienfaits du pardon. Ce que j'ai souvent constaté dans mes années de ministère au contact des brebis, c'est que même si on leur présente les choses les plus belles au sujet du pardon, subsiste quand même un blocage, souvent, et un point d'interrogation à l'intérieur, et de se dire, mais tout ça c'est bien beau Stéphane, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Et on est tout à fait conscient, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, que selon les situations que les uns et les autres ont vécues, vu les blessures qui ont pu être infligées aux uns et aux autres à différents moments, des choses qui peuvent remonter à l'enfance, ça peut remonter très loin une blessure non guérie, que d'arriver auprès de gens avec des impératifs et leur dire « il faut pardonner », on est là, on est blessé et on se trouve devant une espèce de montagne devant nous Et j'ai préféré aborder d'abord beaucoup de messages qui commencent à restaurer les uns et les autres. Et puis ensuite d'aborder cette question du pardon et plus tard de la repentance, mais pas n'importe comment. Je veux déjà vous montrer, bien-aimés, comment on fait pour pardonner. Et c'est pour ça qu'on va lire dans l'évangile de Matthieu, parce que Jésus, la parole de Dieu apporte toutes les réponses nécessaires. Évangile de Matthieu, chapitre 18, au verset 21. Et j'ai intitulé ce message ce matin, « Le pardon, oui, au sens où on est tous d'accord. Le pardon, oui, mais comment ? Comment faire pour pardonner ?» Matthieu 18, 21, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ici, tous comme Pierre, à un moment ou à un autre de nos vies, si ça ne vous est pas arrivé, ça vous arrivera. Tous, en tant que disciples de Jésus, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, nous sommes confrontés à la question essentielle, fondamentale, du pardon et confrontés à nos propres impossibilités dans le domaine. Pierre, il est disciple de Jésus. Vous et moi, nous le sommes aussi. Il aime Jésus, imparfaitement, certes, mais il l'aime. Il a accepté de s'attacher à lui, il a tout quitté pour suivre Jésus et il a même déjà fait de belles expériences avec le Maître. Pourtant, la façon dont Pierre aborde la question du pardon ici montre qu'il est encore dans une logique légaliste, il est dans une forme d'obligation, dans une espèce de norme imposée qu'il veut s'imposer à lui-même et aux autres. Ici, Pierre ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Il ne comprend pas quelle est, parce qu'il n'a pas eu la révélation encore, il ne comprend pas quelle est la véritable norme du royaume de Dieu, quelles sont les normes. Et puisqu'il n'a pas saisi la norme, encore moins, il ne va pas saisir la façon d'y parvenir. Le problème de Pierre, c'est que c'est un homme plein de bonne volonté. Son problème, c'est qu'il est présomptueux et qu'il se croit capable. Mais ça, ça ne le concerne que lui. Ça ne peut pas nous concerner, nous. Pierre pense qu'il a compris la norme du royaume de Dieu. Pierre se croit capable par lui-même et il s'approche de Jésus. C'est lui qui prend l'initiative. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Il fait les questions, il fait les réponses. Nous, on ne fait jamais ça. Combien de fois pardonnerai-je ? 7 fois. Il fait les questions, il fait les réponses. Sa démarche, encore une fois, Pierre est un homme de cœur, il est sincère, il est vrai, il est de bonne volonté, il est honnête, il est juste aveugle sur lui-même. Mais Pierre ici a une démarche religieuse, légaliste sur le « il faut, il ne faut pas ». Pierre est influencé en réalité, ce que le texte ne nous dit pas ici, mais qui est évident dans le contexte religieux de l'époque, c'est que Pierre est influencé par du légalisme et il est influencé par une tradition religieuse de l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque, pourquoi Pierre dit 7 ? Ce n'est pas pour rien. Il est influencé par la tradition, par l'enseignement rabbinique de l'époque. Les rabbins de l'époque, à l'époque de Jésus, se basaient sur des textes du prophète Amos, pour dire qu'il fallait pardonner 3 ou 4 fois et que c'était très bien comme ça. Sur la base de ce que Amos déclare, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, à cause, peut-être vous avez lu ça, vous irez vérifier, à cause des 3 crimes de Moab et même de 4, dit Dieu, je ne révoquerai pas ma parole, je ne révoquerai pas mon arrêt. À cause des 3 crimes de Damas et même de 4, à cause des 3 crimes d'Édom et même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, etc. Et les rabbins de l'époque se basaient là-dessus pour dire ben, que déjà, quand on pardonnait 3 ou 4 fois à quelqu'un, mais c'était déjà bien, et c'était l'enseignement religieux de l'époque. Et Pierre, lui, ça fait un moment qu'il tourne avec Jésus, et puis il voit bien que Jésus, à chaque fois qu'il peut, il défait une norme, il montre que les enseignements religieux ne mènent à rien, et qu'il y a toujours quelque chose de supérieur avec Jésus. Et là, Pierre, il pense qu'il a compris la norme.
Et il pense qu'il a bon, il pense qu'il est dedans.
Et il se dit, non, mais ce n'est pas 3-4 fois, c'est 7 fois. Parce que déjà, 7 fois, ben, c'est le chiffre de la perfection. Donc là, il dit, tu vois, Seigneur, moi j'ai compris qu'eux, ils n'ont rien compris. Et 7 fois, tu vois, je suis prêt à accorder un pardon plein, la plénitude. Je suis prêt à accorder un pardon parfait. Et jusqu'à 7 fois, donc bien plus que tous les religieux que tu clashes tous les jours, Seigneur. T'as vu, j'ai compris, je suis un bon élève. Mais le problème de Pierre, c'est qu'il est encore en train de compter. La réalité, bien-aimé, c'est qu'on a bien du mal à pardonner une fois en 10 ans, pour ne pas dire une fois en 20 ans, ou parfois pardonner réellement une fois dans toute une vie. Alors 7 fois, parce qu'il y a des situations qui ont été pour les uns et les autres de véritables atrocités, des choses abominables. Dans le ministère pastoral, j'entends des brebis qui se confient et qui me livrent des choses que je ne voudrais pas entendre, qui sont des atrocités de ce que l'on leur a fait. Spirituellement, moralement, maritalement, physiquement, atroces. Et quand on est dans ce genre de situation, on ne peut pas aborder le pardon avec une démarche, pardonne-moi Pierre, légaliste, 3-4, non mais moi j'ai compris, ce sera 7. Et là, en réalité, on va voir déjà dans ce que Jésus dit, mais après dans le reste, dans la suite du récit, qu'en réalité, tout est démesuré dans les paroles de Jésus. Tout est exacerbé. Jésus est constamment dans l'hyperbole. Et Jésus est en train de montrer une dimension de vie, une norme. Il est en train de dire à Pierre, non Pierre, c'est pas 3, 4, 5, 6 ou 7. Tu es loin du compte, il faut que tu comprennes déjà la norme du royaume de Dieu. Le pardon est une source. La source, elle est abondante. La source, elle coule. La source coule de façon indépendante des circonstances. C'est une source abondante qui coule. Parce que selon les théologiens ici, est-ce que Jésus a dit littéralement 70 fois, 7 fois, ce qui fait 490 fois, ou est-ce que Jésus a dit, peut-être selon certaines versions, à tes 7 fois, j'ajoute 70 fois, ce qui ferait 77. Dans les deux cas de figure, Pierre, il a dû regarder comme ça, il a dû faire. Et surgit une question implicite dans tous les cœurs à ce moment-là. Mais à ce compte-là, on fait comment pour pardonner ? Je veux bien, Seigneur, le pardon, oui, mais comment vais-je faire pour pardonner ? Jésus est en train de montrer à Pierre qu'il n'est pas question de comptage. Le pardon de Dieu est immense. Il est impossible à mesurer. C'est ça que ça veut dire. Il est inquantifiable. Les normes de vie du royaume, bien-aimé, les normes de vie du royaume, les principes du royaume de Dieu sont infiniment au-delà de ce que nous pensons, concevons ou imaginons. Et le Seigneur est en train de dire, Pierre, toi tu me parles de gouttes. C'est bien parce qu'aux 3-4 gouttes, tu veux rajouter 3 gouttes, ce qui fera 7 gouttes. Mais moi, je ne te parle pas de 7 gouttes. Moi, je te parle d'un fleuve puissant qui coule du cœur du Père Céleste et de mon propre cœur que tu ne pourras jamais quantifier. Tu ne peux pas le rationaliser. Tu ne peux pas le concevoir dans ton esprit humain, cartésien et limité. Tu ne peux le recevoir et le saisir que par la foi. Alors c'est sûr que quand vous regardez un fleuve couler, de temps en temps, effectivement, il y a des rochers. Le fleuve tape sur les rochers. Et vous voyez, vous faites attention, vous voyez quand ça tape, vous voyez quelques gouttes. Mais les gouttes, tout de suite, elles retombent dans le fleuve. Et en réalité, c'est un fleuve qui coule, qui coule, qui coule. Et Jésus dit, mon pardon, c'est une source intarissable, inépuisable. Alors après avoir défini sa norme, après avoir démonté cette norme légaliste religieuse qui n'aidait pas Pierre, qui n'aidait personne, qui ne vous aiderait certainement pas. Quand des personnes sont profondément blessées,
On ne peut pas aborder le pardon avec une démarche légaliste. Dire, il faut pardonner, parce qu'il est écrit, si tu ne pardonnes pas, ton père non plus ne te pardonnera pas. Paf, double peine. Je suis blessé, je suis face à une impossibilité, et je suis séché. Donc, Jésus défait cette norme légaliste. Pierre, ça ne fonctionne pas comme ça, tu n'y arriveras jamais comme ça. D'ailleurs, dans quelques temps, tu me renieras et tu vas t'apercevoir que ça ne marche pas. Tu es de bonne volonté, mais tu n'as pas la bonne pensée. Et puisque cette norme n'est pas quantifiable, il va falloir l'illustrer. Et il va falloir l'illustrer, et bien c'est ce que Jésus va faire, par une parabole, pour véhiculer des principes pour faire comprendre ce qui se passe réellement. Et pour montrer, pour répondre à cette question, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour pardonner ? Et c'est là, merci Seigneur, que la parabole qui suit à partir du verset 23, c'est la réponse, cette parabole, c'est la réponse de Jésus à cette question, comment fait-on pour pardonner ? C'est pourquoi il y a une conjonction de coordination, verset 23, c'est un lien de cause à effet. C'est pourquoi, je vais t'expliquer maintenant comment ça fonctionne, Pierre. C'est pourquoi le royaume des cieux, verset 23, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand ce roi se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie pitié et patience envers moi, je te paierai tout ». Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disait « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre, celui qui avait bénéficié de la grâce du roi, ne voulut pas. Et il jeta son compagnon en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître, au roi, tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié. » Et en réalité, la grâce du roi a été au-delà de ce qu'avait réclamé le serviteur. Le serviteur avait dit « Laisse-moi du temps, je te paierai tout. » Et le roi lui a remis la dette. Il ne lui a pas laissé du temps pour payer. Il lui a effacé la dette et il l'a libérée. Donc il a été largement au-delà de ce que le serviteur avait demandé. « Je t'ai remis ta dette en entier parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas ?» Toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié, compassion, de toi. Son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, verset 35, que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, amen. Ce verset 23, le début de cette parabole, c'est bien la suite, c'est l'explication, c'est la réponse de Jésus qui répond à cette question implicite. Comment fait-on pour pardonner ? Jésus veut ici, on sait que c'est une parabole, la parabole véhicule des principes spirituels, frères et sœurs, chers amis. On ne s'attache pas aux détails dans les paraboles. On cherche les principes spirituels qui sont exprimés par la parabole. Et ici, le Seigneur, dans cette parabole, la parabole, c'est simplement, pour vous la décrire rapidement, pour ceux qui ne sont pas coutumés de la lecture biblique, la parabole, c'est une histoire. Le Seigneur Jésus raconte une histoire. Une histoire de la vie courante, de la vie quotidienne, avec des personnages dans lesquels les gens peuvent facilement se reconnaître. Un juge inique, une veuve, un homme avait deux fils, quelqu'un arrive de nuit chez un ami, mais il n'a pas de pain pour le nourrir, etc. Il y a une quarantaine de paraboles dans les évangiles. Et derrière cette histoire, il y a des principes spirituels. Ce sont des situations de vie quotidienne avec des personnages dans lesquels les auditeurs de l'époque peuvent facilement se reconnaître, comprendre un principe, et dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut que moi je procède. » Ah, ok. La question, ce n'est pas le juge, la veuve, les vierges folles. La question, c'est le principe. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à. Et là, Jésus rentre dans une espèce de délire hyperbolique. C'est totalement, tout ce qu'il dit est démesuré. Il faut savoir qu'à l'époque, le talent, c'est la monnaie la plus forte qui existe. C'est la plus forte monnaie. Je ne sais pas quelle est la monnaie la plus forte aujourd'hui à notre époque. Est-ce que c'est l'euro, le yen, je ne sais pas. Le dollar, j'en sais rien. Ça. C'est la monnaie la plus forte à cette époque-là. La plus forte qui soit connue. Et puis, il faut comprendre aussi que 10 000, c'est le chiffre le plus élevé. On n'utilise pas plus, parce que plus, ça n'existe pas. Quand on disait à quelqu'un, mais ça doit coûter cher, à ton avis, c'est comme si je vous disais, tiens, à ton avis, oh, l'État cette année, c'est quoi le budget de l'État? Vous me diriez, des milliards. À cette époque-là, quand on voulait donner un chiffre infini, mais qu'on n'a pas l'idée, on disait, à ton avis, ça, 10 000 talents, c'est une expression. Parce qu'en réalité, 10 000 talents, ça n'existe même pas. Il faut savoir, par exemple, encore, que non seulement le talent est la monnaie la plus forte, mais une fois que l'Empire romain avait perçu l'impôt sur les 5 territoires les plus importants d'Israël qui étaient asservis, l'Idumée, la Pérée, la Samarie, la Galilée, la Judée, sur les 5 plus grands territoires, une fois que l'État romain avait collecté l'impôt, il avait 800 talents. 800 talents. Et Jésus dit, Pierre, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a contracté une dette qui vaut 12 fois le budget annuel de l'État. 10 000 talents, une dette. C'est comme si je vous disais, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a une dette, non pas d'un million, de 10 millions, mais quelqu'un qui a une dette de plusieurs milliards d'euros. Là, vous vous diriez, attendez, je viens d'emprunter 300 000 euros pour ma maison, je suis endetté pour toute ma vie. Qui peut avoir une dette de plusieurs milliards d'euros? Qui a contracté une dette de 10 000 talents? Ça n'existe pas. Parce que Jésus est volontairement dans l'hyperbole, parce qu'il veut faire comprendre, là, alors que tout est exacerbé, il veut premièrement attirer l'attention de Pierre, mon attention, ton attention, sur l'immensité de ta dette de pécheur qui est inquantifiable envers le roi du ciel. Et ça, c'est la première étape non culpabilisante. Mais c'est la première étape par laquelle le Seigneur veut nous faire cheminer les uns et les autres pour nous amener à avoir envie de pardonner. Derrière ce débiteur, derrière ce serviteur, il y a la réalité du pécheur qui a une dette incalculable envers Dieu. J'ai, moi, Stéphane Brion, plus maintenant, mais j'avais une dette immense envers Dieu à cause de ma nature de péché. Tu avais une dette incalculable envers Dieu, envers Jésus, à cause de ta nature pécheresse. Et que tu sois un tortionnaire, un violeur, un voleur, un meurtrier, un bandit, un Hitler, un Nebuchadnezzar, un mégalomane de cette terre qui est ravagé des millions de vies, ou que tu sois un brave petit gosse de pasteur comme moi qui a fait 4 bêtises dans sa vie, aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Que dans ta vie, tu aies commis 500 kilos de péché ou 500 grammes de péché, un pécheur est un pécheur par nature et il fait des péchés. Et devant un Dieu qui est parfaitement saint, qui est dans une pureté de vie absolue, en lui il n'y a même pas l'ombre d'une mauvaise pensée. Dieu dit, rien d'impur, même tes 2 grammes de péché de quand tu étais petit, parce que tu es une personne de bonne moralité, mais même tes 2 grammes de péché quand tu étais petit. Personne ne rentrera dans mon royaume. Personne ne souillera mon royaume. Et en réalité, nous avons inventé, frères et sœurs, le système religieux catholique a inventé la classification des péchés. Ça n'existe pas dans la Bible. Nous avons dans le système humain, nous avons des avocats qui s'écharpent les uns les autres avec un code pénal long comme mon bras et un code de procédure pénale long comme l'autre bras et des codes, des tas de jurisprudences qui sont plus grandes que moi, plus de 2 mètres, des jurisprudences et qui s'écharpent les uns les autres à coups de circonstances atténuantes, circonstances aggravantes, discréditées. Par contre, alors là, je me suis planté, mais d'une force. On cherche à discréditer les témoins, vous avez compris. Merci pour ceux qui suivent. Puis si à un moment vous voulez dire amen, ça me fera plaisir aussi. Enfin, pas amen pour les avocats, vous avez compris, mais gardez votre amen pour après. Bon, c'était la pause, maintenant on reprend. On cherche à discréditer, mais le système pénal, le système judiciaire divin est extrêmement simple. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Et il n'y a pas de grand ou de petit péché, il y a la question du péché. Le péché, il faut que je le comprenne, est une offense à la nature de Dieu. Le péché est un affront à la sainteté de Dieu. Et derrière ce serviteur, derrière ce débiteur, il y a aussi l'inconscience de cet homme qui est religieux et qui s'imagine qu'il va pouvoir rembourser quelque chose à son maître. Jésus a offert sa vie pour moi, pour toi, sur la croix. Est-ce que tu penses sincèrement que quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quoi que tu essayes, penses-tu sincèrement que tous les efforts d'une vie pourraient racheter ne serait-ce qu'une seule goutte du sang du Fils de Dieu ? Et ce serviteur, il est totalement inconscient parce qu'il dit « Aie patience envers moi et je te payerai tout ». Tu payeras quoi ? Tu payeras comment ? Comment tu vas payer à Dieu la dette de ton péché ? Le psaume 49 dit « Ils ne peuvent pas se racheter les uns les autres et personne ne pourra jamais donner à Dieu le prix de son propre rachat. » Et derrière ce serviteur, ce débiteur, il y a l'inconscience du religieux et il y a aussi l'inconscience. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir rembourser quelque chose ? Parce qu'il n'a pas compris sa véritable nature. Il n'a pas compris qui il est. Beaucoup de chrétiens, pardon, manquent énormément de dimensions de vie, d'élan, d'enthousiasme, de joie, de paix, d'épanouissement, d'assurance, de certitude. Ils n'ont pas saisi la dimension, l'immensité de la grâce de Dieu. Jésus va parler de sa grâce. Il va révéler l'immensité de sa grâce. Elle est révélée dans ce texte. Mais je ne peux pas comprendre à quel point j'ai une grâce immense si je n'ai pas compris à quel point j'avais une dette immense. Et ça nous ramène au béaba de la vie chrétienne pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples. Pardonnez-moi, quelle conviction de péché avons-nous eu réellement quand nous sommes arrivés à Jésus ? Si j'ai une petite conviction de péché, j'ai un petit sauveur, j'ai un petit Jésus de poche, j'ai une petite grâce, j'ai un petit salut, j'ai un petit Père céleste qui m'a rendu un petit service. Vous savez pourquoi ? Ben parce que j'avais un petit problème qui était un petit péché. Mais si j'ai la conviction, et c'est à ça qu'il faut revenir, et c'est là que Jésus ramène Pierre et qu'il l'amène, qu'il nous ramène, on commence par là. Si j'ai la conviction de l'horreur de mon péché, alors j'ai une grâce extraordinaire. J'ai un sauveur tout-puissant, éclatant de gloire, de lumière, de compassion et d'amour. Et là, il va falloir dire amen. Et là, j'ai un sauveur éclatant. Et là, j'ai une puissance de vie qui me saisit. Là, je comprends qui j'étais. Je comprends non pas ce qu'il a fait pour moi. Je comprends ce qu'il a fait de moi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en marche, une puissance de vie, de transformation dans mon être intérieur. Jésus veut faire comprendre à Pierre, me faire comprendre quelle est l'immensité de ma dette pour que je comprenne quelle est l'immensité de sa grâce. Le point culminant, le héros de la parabole, c'est ce roi qui, lui, a le droit de compter il se mit à compter, il a le droit de compter, il a le droit de vie ou de mort, mais qui va manifester, c'est la révolution de la grâce, qui va manifester une grâce surprenante, surabondante, exactement comme avec dans Luc 15, la parabole du fils prodigue. Et ce roi, le roi miséricordieux, et dans la parabole du fils prodigue, on a ici des points culminants de la révélation, de la restauration, de la grâce de Dieu. Le roi, ému de compassion pour ce serviteur. De où Jésus, il est ému de compassion pour toi? Depuis quand Dieu te doit quelque chose? À quel moment Dieu me doit quelque chose à moi? Quand m'est-il redevable? Y avait-il quelque chose en moi pour que je trouve grâce à ses yeux? La grâce de Dieu ne trouve pas sa source dans les circonstances atténuantes qu'on a inventées pour les pécheurs, mais elle trouve sa source dans le cœur même de Dieu, et la grâce est une source. C'est un cadeau qui coûte 100% au donneur et 0% au receveur. Et il n'y avait rien en moi pour que Dieu me fasse grâce. Il m'a fait grâce parce que c'est son cœur, gloire à son nom, parce que c'est qui il est, voilà qui il est. Et il m'a fait grâce. Bien sûr, je me suis repenti. Bien sûr, je me suis converti. Je lui ai donné ma vie. Bien sûr, j'ai mis ma foi. Amen, amen, amen. Mais c'est le don de Dieu, dira Paul. Le Père, le Roi, ému de compassion. Alors oui, la grâce de Dieu était déjà présente dans l'Ancien Testament, mais ici, elle est révélée dans toute sa dimension, dans toute sa plénitude. Et quand Jésus parle à ses auditeurs, ce sont des choses réellement révolutionnaires. Le roi ému de compassion, le père ému de compassion court se jeter au bras de son fils, au cou de son fils. Il le laissa aller, le serviteur dit, s'il te plaît, donne-moi du temps, je te paierai tout. Inconscient que tu es, je vais te laisser aller et te remettre la dette. Tu ne me dois plus rien. Grâce libératrice de Jésus. Il le laissa aller, verset 27, et lui remit sa dette. Et ici, bien-aimé, on touche à la définition même du pardon. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est effacer la dette. Renoncer à faire payer. Le pardon, c'est remettre la dette, acquitter, effacer. Et là, Jésus est là. Personnification, incarnation même de la grâce de Dieu. Il est la plus belle expression, la plus parfaite du cœur de Dieu. Mais Jésus, lui, à la croix, bien-aimé, il n'a pas couvert nos péchés. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Par les sacrifices d'animaux, les péchés étaient couverts en l'attente de Jésus, le sacrifice ultime. Mais le sang de Jésus n'a pas couvert mes péchés. Le sang de Jésus a effacé mes péchés, pourvu que je m'en sois repenti, on est bien d'accord. Il a effacé mes péchés. Il ne subsiste plus rien. Il m'a pardonné. Il a tout effacé. C'est comme si je n'avais jamais péché. Il ne reste plus rien. Parce que Jésus a tout payé. Et c'est ça aussi le cœur du pardon. C'est que le pardon, on ne va pas se mentir, bien-aimé. Bien sûr, ça coûte. Regardez Jésus à la croix. Et dites-lui que le pardon de nos âmes lui a rien coûté. Bien sûr que ça lui a coûté. Et j'y reviens dans ce système judiciaire, législatif, judiciaire, dans ce tribunal divin qui est là. Alors que nous sommes en haillons, selon ce que vous lisez dans Zacharie 3, nous sommes en haillons, ou dans Luc 15 avec le fils prodigue, nous sommes en haillons. Et nous sommes là couverts de saleté, de nos fautes, de nos péchés. Nous sommes devant Dieu, le juste juge, le législateur éternel. Et il est là, siégeant sur son trône. Et il y a un avocat à ma droite. Jésus est mon avocat, si tu le veux, si je le veux, il est ton avocat. Mais il fait quoi cet avocat? Il ne va pas commencer à dire, « Ah, mais Seigneur, il faut comprendre, c'était pas tellement de sa faute. » Il avait des circonstances atténuantes. Si ce n'est pas si grave, il n'y a pas besoin de Jésus. Si ce n'est pas si grave, je n'ai pas besoin de sauveur. Ou je sortirai du tribunal divin avec un petit sauveur et une petite grâce. Et en réalité, l'avocat suprême est là, dans ce système judiciaire divin extrêmement simple, et le Père dit, se tourne vers Jésus, l'avocat suprême. Votre client, avocat Jésus, votre client Brion, il plaide quoi ? Jésus sait ce qu'il y a dans mon cœur, je lui ai parlé, il sait ce que je plaide. Il plaide coupable. Point. Et il n'y a rien à ajouter. Et le Père, en regardant Jésus, l'avocat suprême, lui dit « Et vous, monsieur l'avocat, qu'avez-vous à dire pour la défense de cet homme ? Qu'est-ce que vous dites pour défendre Stéphane Brion ?» J'ai rien à dire. Il est sale. Il est souillé. Il est impur. Il est abject. Il mérite la séparation éternelle. Il est irrécupérable. Il n'y a rien à faire pour lui. C'est un cas désespéré de péché. Nous n'en tirerons jamais rien. Il est coupable à 100% pour l'éternité et sans aucune circonstance atténuante, jamais. Mais je l'aime tellement. Accepte que ce soit moi qui paye la dette. Vois ma chair, vois mon sang, vois mes mains. Laisse-moi payer la dette à sa place. Et le Père dit, d'accord, paye pour lui, mais il faut payer. Et il faudra payer jusqu'au dernier centime. Il faudra boire la coupe amère jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Tu paieras la facture du péché de Stéphane jusqu'à la dernière goutte. Je boirai tout jusqu'au bout, Père, parce que je veux que là où je suis pour l'éternité, je veux qu'il soit avec moi. Et je veux qu'ils soient tous avec moi. Et je paierai. Si vous voulez comprendre, frères et sœurs, si vous voulez comprendre la dimension, si vous voulez comprendre l'horreur de votre péché, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, si vous voulez comprendre l'horreur de votre péché, regardez Jésus à la croix. Regardez-le nu comme un ver. Regardez-le défiguré, tuméfié. Regardez, il ne ressemble plus à rien. Regardez la couronne d'épines. Regardez son dos labouré. Psaume 129, ils ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Regardez ses pieds, ses mains, son côté, son corps. Il ne ressemble plus à rien. C'est atroce, c'est abominable, c'est abject. Le spectacle est immonde, il est à vomir. Pourquoi ? Seigneur, tu ne pouvais pas faire un petit peu plus soft ? Non, on ne pouvait pas parce que ton péché est horrible. Et Jésus a dit, je paierai pour eux jusqu'à la dernière goutte. J'assumerai tout pour eux, pour que tu les libères. Libère-les de ta loi et libère-les. Moi, je les libère de la puissance du péché, mais toi, tu les libères de ta loi et tu les libères de la condamnation. Voilà l'accord passé entre le Père et le Fils. Si vous voulez comprendre l'horreur de votre péché, prenez le temps de contempler Jésus sur la croix. Si vous voulez comprendre l'immensité de son amour, la plénitude de sa grâce, regardez Jésus sur la croix et dites-vous qu'à sa place, c'était vous, c'était moi. Et les Jésus, avec son amour et sa pédagogie, est en train de dire à Pierre, tu vois Pierre, tu le comprendras bientôt tout ça. Mais pour l'instant, tu ne l'as toujours pas compris. Tu n'as pas compris le prix de ta dette. Tu n'as pas compris donc la dimension de ma grâce. Et ici, on touche bien aimé au cœur même de l'Évangile. Ce qui est ce pardon libérateur, totalement immérité, qui permet aux pécheurs repentants de passer de l'esclavage à la liberté. Et au-delà de l'entretien de Jésus et de Pierre sur ce pardon, en filigrane, il y a la question, bien-aimé, de ma compréhension, de ta compréhension véritable de la grâce de Dieu.
conviction de péché et grâce de Dieu. Et là, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, tu n'arriveras jamais à pardonner, verset 35, à ton frère de tout ton cœur, si tu ne passes pas par cette conviction, par cette révélation qui va changer, qui va transformer ta vie, qui va transformer ton état d'esprit et qui va te rendre capable. Et au-delà de cet entretien entre Pierre et Jésus sur le pardon, Jésus met en évidence ici toute une façon d'être, une mentalité, une façon de raisonner, tout un mode de vie qui est généré par la grâce. Conviction de péché, expérience de la grâce surprenante et surabondante de Jésus, et ensuite une vie transformée par la révélation, par l'esprit de la grâce. Et c'est seulement dans cette perspective que le salut, oui bien sûr, la source du pardon peut couler. Et Jésus va mettre en évidence aussi qu'après la conviction, après la révélation de la grâce, vient une responsabilité. Elle n'est pas incompatible avec l'amour de Jésus. Mais quand nous avons compris qui nous sommes, et quand nous avons compris ce qu'il a fait, nous avons une responsabilité. Parce qu'une grande grâce engendre toujours une grande responsabilité. Une grande grâce amène toujours une grande responsabilité. Et là, le problème de ce serviteur, c'est qu'il n'a pas compris qui il est vraiment. Il n'a pas compris ce que Jésus a fait pour lui vraiment. Et c'est pour ça qu'il refuse de remettre la dette, cette dette qui est de 100 deniers, c'est-à-dire environ 3 mois de salaire pour un ouvrier moyen de l'époque. Il va le faire jeter en prison, il va le faire payer. Il n'a pas réalisé la grâce dont il est l'objet. Et c'est là que le maître va être indigné. La question implicite de Jésus lorsqu'il lui dit « Ne devais-tu pas ?» Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir compassion de ton frère comme moi j'ai eu compassion de toi ? Ne devais-tu pas avoir compassion d'eux ? En d'autres termes, Jésus, après avoir démontré la conviction, la grâce, le changement de vie, de mentalité, le Seigneur est en train d'inverser la question. Et alors qu'implicitement, au début, on était tous dans le « Comment faire pour pardonner ?» Peut-être que Pierre aurait pu dire d'une certaine façon à Jésus « Maître, comment fais-tu pour pardonner ?» Et Jésus retourne la question et lui dit « Non, Pierre, si tu comprends ce que je t'explique, la question n'est pas « Comment vais-je faire pour pardonner ?» La question c'est « Comment fais-tu pour ne pas pardonner ?» C'est ça l'idée. Avec ce que j'ai fait pour toi, comment fais-tu pour ne pas pardonner ? Le pardon doit devenir une source dans ton cœur. Soit tu vas avoir les yeux sur le dossier, tu vas avoir tes yeux sur l'offense, et j'ai conscience que certaines offenses sont à peine nommables, tellement elles sont ignobles. Mais si tu gardes, c'est toute une histoire, je vous l'ai dit avec Asaph, c'est toute une histoire de regard spirituel. Si tu as tes yeux fixés sur le dossier, ou peut-être les yeux fixés sur ta propre blessure, ce que je comprends fort bien, tu vas passer encore de nombreuses années à lutter et à te dire « Mais comment faire pour pardonner ?» Mais si tu as tes yeux sur Jésus, la victime suprême, et que tu le considères lui, agonisant pour ton péché alors qu'il ne te doit rien. Tu vas oublier le dossier et tu vas dire « Oui Seigneur, comment pourrais-je ne pas pardonner ?» Jésus amène Pierre ici à un changement de regard, de perspective. Voilà frères et sœurs, ce premier message dans la série du pardon et de la repentance. Voilà comment accorder le pardon de tout ton cœur. Ça vient d'une conviction. Comment est-ce que tu vas pardonner, remettre, effacer la dette? Comment tu vas laisser aller des gens qui, on est d'accord, ne méritent pas que tu les laisses aller? Ils ne méritent pas que tu effaces leur dette. Et combien de fois on a dit à juste titre, Seigneur, c'est trop facile. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Seigneur, c'est trop facile. Elle ne va pas s'en tirer comme ça. Considère attentivement Jésus à la croix. C'est dans ton intérêt. Si tu prends un tel, spirituellement, tu les saisis et tu les jettes en prison. La prison dans laquelle, écoute-moi bien mon bien-aimé, la prison dans laquelle tu jettes tes prisonniers, c'est celle de ton cœur. Et si tu as des... Ils sont nuls par ailleurs. Ils sont là à l'intérieur. Et c'est pour ça que Jésus insiste et qu'il dit « Libère-les et libère-toi. » Parce que le pardon libère l'offenseur, mais le pardon libère aussi l'offensé. Libère-les, libère-toi. Ne te mets pas la double peine, tu as déjà une blessure considérable. Si tu prends ton offenseur et que tu le jettes en prison, celle de ton cœur, tu te mets la double peine. Parce que ce prisonnier, tu vas l'emmener partout avec toi. Tu vas faire tes courses avec lui. Tu vas essayer de te reposer, mais tu l'auras toujours dans ton cœur. Tu vas partir en vacances avec lui. Il sera avec toi dans tes repas de famille. Il peut être avec toi dans tes temps de communion avec Dieu ou avec tes frères dans l'église. Tes prisonniers, il faut les nourrir. Il faut leur donner à boire. Il faut en prendre soin. Et tu les emmèneras partout avec toi. Parce qu'ils sont là à l'intérieur. Tu fuirais dans une autre église, un autre pays, une autre carrière. Tu fuirais aux extrémités de la terre. Tu emmèneras tes prisonniers avec toi. Et c'est parce que Jésus t'aime, c'est parce qu'il m'aime, qu'il aime Pierre, qu'il dit ne te mets pas la double peine. Libère, ça fait mal, ça va t'arracher des larmes. Mais Jésus te dit, libère-la, libère-le. Et libère-toi. Parce que sinon, c'est là qu'on en arrive à ces bourreaux. C'est pas que Dieu ne m'aime pas. C'est pas qu'il ne m'aime plus. C'est pas qu'il veut me faire payer quelque chose. Il va le livrer au bourreau, c'est-à-dire qu'il va le laisser entre les mains. Il va le laisser entre les mains de ces bourreaux pour qu'ils comprennent. Parce que peut-être tu ne veux pas comprendre. Il va le laisser entre les mains de ces bourreaux. C'est quoi ces bourreaux? Mais ces bourreaux, ben, ils sont spirituels. Ces bourreaux s'appellent ressentiment. Ces bourreaux s'appellent rancœur. Ces bourreaux s'appellent tristesse. Ils s'appellent amertume. Ces bourreaux en moi s'appellent colère, s'appellent inquiétude, s'appellent tourment. Ces bourreaux en moi s'appellent angoisse. Ils s'appellent mauvaise pensée. Et ces bourreaux-là à l'intérieur, le Seigneur dit, si tu ne veux pas comprendre, c'est pas que je ne t'aime pas. Mais je vais te laisser entre les mains de tes bourreaux pour que tu comprennes l'état de ton cœur et de ta vie et que tu arrives à ce verset 35 pour que tu puisses enfin comprendre, accepter et pardonner à ton frère de tout ton cœur. Amen. On peut se recueillir, s'il vous plaît, bien-aimé. Père, je veux te remercier pour ta parole. La parole qui sort de ta bouche est vérité. Elle est éternelle et elle est toujours la réponse, la solution pour chaque cœur, pour chaque vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu donnes toujours ce que tu ordonnes. Tu pourvois toujours à ce que tu demandes. Et ce que tu nous le demandes parce que tu nous aimes, non pas pour mettre un fardeau supplémentaire ou un poids ou une blessure supplémentaire sur nous, mais c'est parce que tu nous aimes. parce que tu veux nous voir libres, parce que tu ne veux pas que notre âme s'engouffre dans des prisons intérieures pour vivre, Seigneur, une vie misérable que toi, tu n'as jamais voulu pour nous. Et je te bénis de ce que tu nous montres, le chemin du véritable pardon. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur, chaque ami ce matin, Seigneur, qui, tu le sais, tu en as profondément compassion, vive encore peut-être avec des blessures passées, des blessures d'enfance, des blessures familiales, des blessures maritales profondes. Mais Seigneur, je sais que tu es le Dieu du pardon, tu es le Dieu de la conviction, tu es le Dieu de toute restauration. Et je te prie, Seigneur, dans ta grâce infinie, de secourir chacun des bien-aimés ce matin qui ont besoin de toi dans ce domaine, de les secourir, de les affermir, d'ouvrir leurs yeux, de les consoler. Et si c'est dur, et oui, c'est dur, Seigneur, tu les portes, tu les soutiens, tu les aides, tu leur donnes le vouloir et le faire. Et tu leur permets, Seigneur, de vivre une authentique vie de liberté. Et je te prie, Seigneur, qu'en ton nom ce matin, des portes de cœur, des prisons intérieures s'ouvrent, que des prisonniers soient libérés, que des offenseurs soient libérés, et que ceux qui sont offensés vivent aussi eux-mêmes une profonde libération par la puissance de ton amour et de ton pardon. Merci Jésus. Amen. Amen.